Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit.
Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'être unis de sentiments les uns avec les autres selon Jésus-Christ. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Le martyrologe, au jour, ou plutôt la veille, enfin, mettons le jour de Noël, eh bien, nous dit, le martyrologe romain nous dit que le Christ est né en la 5199e année du monde. Il se trouve qu'il y a 4 semaines de l'Avent, et si l'Avent, et comme l'Avent représente symboliquement tout le temps qui s'est écoulé entre la faute de nos premiers parents et la naissance du Messie, il se trouve que chaque semaine représente plus d'un millénaire. Nous sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent. Qu'avons-nous fait pendant ce millénaire? Voyez-vous, mes très chers frères, avons-nous bien employé le temps depuis notre temps, depuis 1000 ans et plus, symboliquement parlant? Vous allez dire, c'est un temps passé à attendre. Et c'est pour cela que saint Paul nous parle de la patience dans l'épître que vous venez d'entendre, l'épître aux Romains. La patience. L'Église nous exhorte à la patience. Or, voyez-vous, nous allons apprendre que cette vertu n'existe que dans la mesure où elle est, où celle d'espérance, la vertu d'espérance, lui est unie comme sa fin. Alors, entrons directement dans le sujet. Dans un premier point, avec l'aide du Saint-Esprit, nous poserons la question « qu'est-ce que la patience chrétienne ?» et nous en dirons quelques mots. Ensuite, cela nous amènera à un deuxième point où nous poserons la question « d'où vient-elle cette patience chrétienne ? Comment nous est-elle donnée ? Par quels moyens nous est-elle donnée ?» Et ce sera l'occasion de parler du rôle de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte et de ses 2 fruits principaux. Et dans un troisième point, brièvement, nous dirons encore quelques mots sur l'Écriture sainte. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez à nouveau ce que dit saint Paul. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'être unis de sentiments les uns avec les autres, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans ces paroles, qui sont très denses, une leçon sur l'amour fraternel. Nous savons, car saint Jean nous l'apprend dans son épître, dans la première épître, il nous dit « nous ne pouvons pas aimer Dieu, prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas nos frères que nous voyons. » C'est exactement la même chose que dit saint Paul ici. L'amour fraternel est le résultat de la charité, c'est-à-dire de l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu résulte dans la charité fraternelle. La charité, donc l'amour pour Dieu, lorsqu'elle est authentique, produit un degré, je veux dire quelconque, parce qu'il peut être grand ou petit, mais il produit, petit s'il commence, il produit un degré d'union à Dieu qui transforme l'homme en celui, c'est-à-dire en Dieu, qu'il aime. Or, comme il faut vivre ici-bas, comme nous venons de le dire, cette charité produit l'amour fraternel qui se manifeste par l'union avec les frères. C'est pour cela que saint Paul dit, afin d'être unis de sentiments les uns avec les autres, selon notre Seigneur, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a là quelque chose de très important qui nous montre que tout ce que nous enseigne l'Église ne peut pas être réduit dans des termes de la sagesse humaine. La sagesse humaine nous dit, puisqu'il faut vivre en société, puisque l'homme est un animal qui vit en société, il faut bien faire des efforts vis-à-vis de notre prochain, sinon la vie serait en enfer. L'enfer, c'est les autres, comme disait un abruti de première classe. Donc, il se trouve que, effectivement, sans la charité, il n'y a que une sagesse humaine, et la sagesse humaine, eh bien, nous permet de vivre, dans le meilleur des cas, pas trop mal ici-bas, mais sa finalité, c'est la damnation. Évidemment, parce qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien, non pas parce qu'elle est humaine, mais justement parce qu'elle n'est qu'humaine. Et quand on dit humain, depuis la chute, on dit déchu, on dit ennemi de Dieu, on dit rempli de mépris et de dédain vis-à-vis non seulement du Créateur, mais aussi du Rédempteur. Donc voyez-vous, mes très chers frères, l'enseignement de l'Église est irréductible à une vague sagesse humaine, de telle sorte qu'on ne peut pas enseigner en même temps les catholiques, c'est-à-dire les chrétiens, et les mécréants. On ne peut pas avoir un discours qui s'applique autant aux uns qu'aux autres, sachant que les uns sont appelés à être un peu meilleurs que les autres, puisqu'ils sont catholiques, tandis que les autres, n'étant qu'humains, doivent se comporter bien en tant qu'humains, etc. Je ne dis pas que les mécréants ne doivent pas bien se comporter. Ils ont intérêt, de toute façon, la loi des hommes est là pour faire qu'ils se comportent, disons, le moins mal possible. Maintenant, il se trouve, mes très chers frères, que l'Église ne peut pas enseigner à la fois les mécréants qui vivent sans Dieu et les chrétiens, sinon elle donnera aux mécréants l'idée qu'ils peuvent plaire à Dieu, au moins plaire à Dieu leur Créateur, en agissant conformément à leur nature, et aux chrétiens, eh bien, elle dira que, elle laissera entendre que, d'une certaine manière, l'essentiel c'est de bien se comporter en tant qu'humain, et si on peut faire plus, c'est-à-dire si on peut être baptisé, si on peut être chrétien, etc., eh bien, c'est pas plus mal, mais en même temps, ça n'a pas une valeur absolue. Tout ceci est totalement faux, ceci est la nouvelle religion. Je vous fais remarquer, le néo-catholicisme, la néo-église, tout ceci sont des choses très compatibles, et quand on dit néo-église, il ne faut pas simplement penser à ceux qui sont en union explicite avec François, il faut aussi penser à tous ceux qui sont plus ou moins en union avec lui, même à certains qui ne sont pas en union avec lui, mais qui participent de cette même religion. En effet, lorsqu'on s'imagine que l'essentiel, c'est de bâtir la cité ici-bas selon les meilleures règles, et d'une certaine manière, cela se fait d'autant mieux qu'on est chrétien, mais pas uniquement, on est déjà dans la nouvelle religion. Laissons les néo-catholiques là et revenons à saint Paul. La charité vis-à-vis de Dieu, l'amour de Dieu, produit nécessairement l'amour des frères, l'union avec les frères. Or, cette union avec les frères, je disais, n'est pas réductible à une sagesse humaine qui voudrait simplement vivre ensemble correct. Nous sommes unis avec nos frères dans un but bien précis, qui est explicité ici par saint Paul, afin que, dit-il, d'un même cœur et d'une même bouche, ce qui renvoie à l'unité ecclésiale, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes pleins de charité vis-à-vis de nos frères, ce n'est pas simplement pour supporter uniquement notre prochain pénible, encore une fois, comme un païen pourrait supporter jusqu'à un certain point son prochain pénible, nous sommes unis avec lui afin de rendre gloire à Dieu le Père de notre Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous devons aimer nos frères afin de vivre ensemble avec eux dans la gratitude vis-à-vis de Dieu pour la rédemption qu'il a réalisée par le versement du sang de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne comprenons rien à la doctrine de la charité fraternelle si nous ne comprenons pas qu'elle a pour but la glorification communautaire, si l'on peut dire, même si le mot est un peu prosaïque, mais la sanctification et la glorification de Dieu, notre Rédempteur. C'est pour cela que on ne peut pas l'union des chrétiens ne peut s'opérer qu'au sein de l'Église qui réunit déjà tous les chrétiens. On ne peut pas être en union avec des schismatiques, on ne peut pas être en union avec des gens qui reconnaissent d'une manière ou d'une autre que François est sous un certain rapport, pas sous tous les rapports, mais sous un certain rapport, le pape. Et nous ne croyons pas que la néo-Église est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ceux qui identifient de près ou de loin la néo-église avec l'église de notre Seigneur, participe, de près ou de loin d'ailleurs, mais à cette église, et ne peuvent pas en même temps participer de la véritable église. Nous ne pouvons être unis, il faut que les chrétiens soient unis, mais il n'y a que des frères qui peuvent être unis. Nous ne pouvons pas être unis avec des schismatiques, nous ne pouvons pas être unis avec des hérétiques, nous ne pouvons pas être unis avec des néo-catholiques non plus. Voyez, par ailleurs, mes très chers frères, si l'Église n'est pas hiérarchisée, c'est-à-dire si l'Église n'est pas elle-même, si l'Église n'est pas ce corps vivant doté d'une véritable structure, quand bien même elle serait dans un état d'abaissement et de diminution, comme on le voit aujourd'hui avec ce problème du pape qui n'est plus là, etc., qui semble ne pas pouvoir être là, enfin pour diverses raisons très compréhensibles par ailleurs, mais il se trouve que si elle n'est pas structurée minimalement comme il faut et comme elle doit l'être, ce dont on parle n'est pas l'Église. Si l'Église n'est pas une unité, une entité hiérarchisée, en lien direct avec ce que tout le monde reconnaît pour être l'Église d'il y a un certain temps, eh bien, si elle n'a pas les quatre marques, dont l'apostolicité, c'est-à-dire non seulement la doctrine apostolique, mais encore la succession apostolique, alors, mes très chers frères, ce n'est pas l'Église, c'est autre chose, c'est un club, c'est une utopie. C'est une sorte de communauté en autogestion, comme on le voit un peu partout. Effectivement, ce sont des choses qui existent, mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. On ne peut pratiquer la religion chrétienne qu'au sein de l'Église, royaume de Dieu, et non pas royaume de la volonté propre où chacun fait ce qu'il veut dans son coin invoquant je ne sais quelle raison qui n'en sont pas. Voyez-vous, mes très chers frères, au mieux, en pratique, eh bien, cette église auquel beaucoup de gens qui se croient catholiques croient appartenir, eh bien, et auquel ils appartiennent en réalité, cette église qui n'en est pas une, n'est qu'une galerie marchande où tous se retrouvent pour acheter et pour vendre et si possible pour faire son beurre en vendant ses bouquins et autres choses, productions, aux autres qui n'ont pas le talent pour les écrire. Donc voyez-vous, mes très chers, tout ceci n'est pas l'Église. On ne peut être uni à ses frères que dans l'Église, et quand on est uni à ses frères dans l'Église, c'est pour louer et rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés par lui, par notre Sauveur. L'union des chrétiens n'a donc pour but... n'a donc pas pour but de bâtir la cité catholique, comme on le dit depuis trop longtemps déjà. Cette communion, cette sociabilité, si j'ose dire, catholique, est un effet, et encore un effet de l'union des chrétiens, et encore cette cité n'est pas à bâtir, elle est à intégrer, entrer dans la cité chrétienne. Alors on va dire, mais elle n'existe plus. Si elle n'existe plus, c'est que, s'il vous semble qu'elle n'existe plus, c'est que vous n'y vivez pas. Et vous essayez de la rebâtir là où elle ne peut pas être bâtie. Voyez-vous, la tête suppose un corps, et le corps sans tête, même s'il a une forme de corps, eh bien c'est un corps mort, c'est un corps décapité. La charité, disons-nous, suppose la patience. On ne peut être patient que dans l'Église, on ne peut être patient qu'en union avec ses frères pour glorifier Dieu, le Père de notre Seigneur. La charité, dit saint Paul, revenons à saint Paul, suppose la patience. Or, saint Paul nous indique l'origine de cette patience. C'est notre deuxième point. Tout ce qui a été écrit, nous dit saint Paul au début de cet épître, tout ce qui a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Depuis presque deux siècles, mes très chers frères, la patience des catholiques, cette patience, donc cette vertu qui fait qu'on attend fermement quelque chose et qu'on supporte tout dans l'attente de quelque chose, nous y reviendrons, depuis près de deux siècles, la patience des catholiques tient à leur espérance de renverser le courant de la modernité et de faire de la modernité la civilisation chrétienne par excellence. Il y a eu quelques tentatives, il y a eu jusqu'à un certain point, quelques réussites de cet ordre-là. Mais le résultat, nous le voyons sous nos yeux. Le résultat, c'est la néo-église, le résultat, c'est le néo-pape, le résultat, c'est François. Et quand on dit François, il ne faut surtout pas oublier Benoît, Jean-Paul et Paul et Jean, bien sûr, avant. Tous ces, je n'y ai même pas des faux papes, ce sont des néo-papes, ce sont des papes de la néo-église, il y a des Dalai Lama, il y a des papes coptes, il y a des papes, et il y a des papes de la néo-église. Pourquoi cela devrait-il nous choquer? Ce sont véritablement des papes, mais ils ne sont pas les papes de l'église. Ils sont les papes d'une néo-église, et dans cette néo-église, une fraction infime n'est pas tout à fait d'accord avec ce que font ces papes, Et il ne faut pas oublier que l'immense et écrasante majorité est totalement d'accord avec eux. Donc voyez-vous, mes très chers frères, quand on est néo-catholique, on est en union avec le pape, on professe avec le néo-pape, on professe la néo-religion, et on est tout sauf catholique. Donc le néo-catholique qui se rend compte, peut-être par la grâce de Dieu, j'espère que c'est la grâce de Dieu, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, doit devenir catholique. Parce que si on est catholique simplement par une prise de conscience qui fait qu'on est catholique alors qu'avant on était aussi catholique, eh bien on est un peu dans l'absurde. Bon, je dis cela, ce n'est pas sans lien avec notre sujet, parce que justement il y a bien des gens qui sont patients et qui attendent patiemment, tout en passant leur vie pendant des décennies et des générations, à faire des conférences, à lire des livres, à écrire des livres, à faire toutes sortes de choses, et maintenant on fait toutes sortes de choses sur l'internet, etc., en attendant de pouvoir renverser le courant. Vouloir que la modernité se convertisse et devienne la civilisation catholique par excellence, c'est autant, mes très chers frères, attendre que le diable, que Satan se convertisse, en réalité. Il méprise tout, voyez-vous, mes très chers frères, sinon ce qui pourrait... Il méprise tout, ces gens-là, sinon ce qui appartient... à ce qu'il désigne comme la grandeur de la gentilité, à savoir cette science politique, et encore celle qui vient d'Aristote uniquement, selon l'idée d'un miracle grec qui ferait que l'Église spécialement catholique romaine est une Église qui est héritière, bien sûr, un peu par hasard, des délires d'un judéen quelconque, mais au surtout de la puissance organisatrice de la Grèce, spécialement aristotélicienne, et de la Rome païenne, qui est la seule Rome grande et digne d'admiration que l'on puisse avoir. Donc voyez-vous, mes très chers, ces gens-là sont des néo-catholiques, ces gens-là sont dans... ressuscitent, si l'on peut dire, à tour de bras, une gloire de la gentilité dont notre Seigneur leur avait fait la grâce d'être détournés et convertis. Et ces gens-là ne comprennent pas, ne peuvent plus comprendre que, voyez-vous, mes très chers frères, cette vérité, que de l'espérance de la vie éternelle découle l'organisation humaine ici-bas, espérance de la vie éternelle conforme à la doctrine que nous avons reçue de notre Seigneur, des apôtres, et non pas supplément d'âme tel qu'on peut la trouver dans la néo-religion. Je parle d'une façon un peu énigmatique, évidemment, que celui qui peut comprendre, comprenne. Revenons encore une fois à saint Paul pour parler et voir comment il nous parle de la vraie patience, la patience chrétienne, celle que nous devons nécessairement pratiquer. D'où vient la patience chrétienne? Saint Paul nous dit de l'espérance de la vie éternelle. Comment cette patience nous est-elle donnée? La réponse est claire. Par l'Écriture sainte, qui est le trésor de l'Église, la tradition écrite, la source et le fondement de notre foi, l'objet du développement et de l'explicitation qui constitue la tradition orale. Saint Paul est très clair. Tout ce qui a été écrit, il parle bien sûr de l'Écriture sainte, a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien souvent, le chrétien, spécialement le chrétien moderne, quand il écoute saint Paul, il entend comme une belle symphonie, c'est beau, c'est magnifique, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça ne veut pas dire grand-chose, ou alors ça veut si peu, et si on croit comprendre, on se dit, mais c'est pas possible, l'espérance vient justement de toutes sortes de choses, mais quand saint Paul nous dit la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, et nous disons que c'est incompréhensible. En réalité, c'est que nous, si nous ne comprenons pas, c'est que nous comprenons mal. L'Écriture sainte, on l'oublie trop souvent, et je le répète, le trésor de l'Église, la tradition écrite. Ce n'est pas un bouquin Ce n'est pas une compilation de toutes sortes d'histoires, de choses plus ou moins jolies, plus ou moins compréhensibles, plus ou moins stupides, plus ou moins scandaleuses, que nous avons, grosso modo, récupérées des juifs de la synagogue et que nous traînons dans nos bagages un peu comme un poids mort. C'est le fondement même de notre foi. S'il n'y avait pas l'Écriture sainte, l'Église n'existerait pas. Si l'Église n'existait pas, l'Écriture sainte ne nous serait garantie par aucune institution divine et l'Écriture sainte resterait stérile. En dehors de l'Église, l'Écriture sainte est stérile. Dans l'Église, l'Écriture sainte doit être considérée comme source de patience et de consolation dans le but de nous faire posséder l'espérance. Autant dire que nous sommes tous d'accord pour dire que ceux qui lisent l'Écriture en dehors de l'Église n'en peuvent retirer aucun fruit pour l'éternité. Je ne dis pas qu'elle est incompréhensible, qu'elle est absurde, je dis simplement que c'est comme, par exemple, vous êtes en Arabie Saoudite et puis vous lisez le Code civil français. Et peut-être que vous comprenez quelque chose, c'est fort possible, mais ça ne vous sert à rien puisque vous n'êtes pas en France. L'exemple est un peu stupide, mais la réalité, vous voyez, ils lisent quelque chose, ils ne sont pas là où il faut. Ils lisent la clé du royaume de Dieu, mais en dehors du royaume de Dieu. Nous sommes tous d'accord que ce n'est pas l'Écriture seule qui fait tout l'essentiel du christianisme. C'est l'appartenance à l'Église avant tout. Quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église invisible des protestants, ce n'est pas une Église imaginaire des néo-catholiques et des traditionalistes. C'est l'Église catholique, celle qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, celle qui est régie par les évêques, etc., et toute la hiérarchie. C'est celle-là dont nous parlons. L'Écriture sainte, dit saint Paul, l'Écriture sainte est... En elle se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu, et ils y sont renfermés. Saint Paul aux Colossiens. Voyez-vous, l'Écriture sainte, nous ne pouvons pas avoir un trop grand respect pour elle, car elle est le fondement objectif de ce que nous sommes. Et que sommes-nous ? Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu par le baptême, nous sommes fils de l'Église qui nous a enfantés à la vie éternelle par le baptême. Nous sommes chrétiens, tout ceci nous le savons parce que l'Écriture l'atteste. Et nous savons que l'Écriture est bien l'Écriture puisque l'institution de l'Église nous garantit que c'est véritablement l'Écriture. Elle nous garantit de deux manières, par son autorité propre, puisqu'elle a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, son fondement étant notre Seigneur lui-même, pierre angulaire, et ensuite il y a les apôtres et les prophètes et les apôtres, comme dit saint Paul, et en même temps, nous savons qu'elle dit vrai, parce qu'elle correspond à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voyez-vous, quand les protestants ne jurent que par la parole de Dieu, on pourrait leur demander, mais où sont vos évêques ? Où sont l'institution des anciens, etc. Alors, ils ont toutes sortes d'interprétations, dans toutes sortes de dénominations, ils ont toutes sortes de mises en pratique. Le problème, c'est que le protestantisme, en général, en tant qu'entité, si tant est que ce soit une entité unie, est d'une telle disparité qu'on ne peut pas y retrouver l'Église de notre Seigneur. On peut y trouver au mieux des bribes, des éléments divers et variés, mais quand on trouve des éléments dans tout un champ, un bras par-ci, un corps par-là, une tête par-là, etc., on ne peut pas dire « tiens, il y a un homme dans le champ ». On dit plutôt « il y a un cadavre dépecé dans le champ ». Que Dieu nous garde. Donc, il se trouve que c'est la même chose pour les protestants. Si nous disons cela, si nous insistons sur les protestants, mes très chers frères, c'est qu'il ne faudrait surtout pas abandonner l'Écriture sainte aux protestants sous prétexte que nous sommes catholiques et nous n'avons pas besoin de la Bible. Nous sommes catholiques, donc nous avons l'Écriture sainte, et les protestants, quand ils sont partis, ont emporté une petite partie de l'héritage du chrétien, qui est l'Écriture sainte, et le problème, c'est qu'ils en ont perdu la clé. Et quand bien même ils la comprennent jusqu'à un certain point, cela ne leur sert de rien, puisque on ne la comprend pleinement, c'est-à-dire on ne la pratique, on ne lui obéit réellement que dans l'Église. Encore une fois, ce n'est pas très difficile à comprendre. Ceux qui lisent l'Écriture doivent la lire, c'est un lieu commun des pères, doivent la lire avec l'esprit qui l'a dictée. Ceux qui l'abordent autrement sont ou bien trompés par les ténèbres de leur mental, de leur intelligence, ou bien, encore une fois, les vérités qu'ils y glanent sont sans fruit, je le répète. Un peu comme quand on reçoit les vrais sacrements en dehors de l'Église, eh bien c'est sans fruit. On a beau être confirmé, on a beau être baptisé, on a beau être communié, peut-être à des sacrements valides, mais cela est sans fruit. Cela est sans fruit parce que c'est fait en dehors de l'Église. Mutatis mutandis, évidemment, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même chose pour la lecture de l'Écriture sainte. Le fait d'être dans l'Église est une condition fondamentale. Maintenant, il se trouve que dans l'Église, il faut aussi la lire comme il le faut. Si on lit, on la lit avec mépris. Si on ne la lit pas, ce qui est la même chose, si on la lit, encore une fois, quand on est catholique, avec des versions qui viennent des néo-catholiques et qui sont pleines de toutes sortes de notes condescendantes, etc., évidemment, tout cela ne sert à rien. Il faut la lire dans l'esprit de l'Église, c'est-à-dire dans des versions qui sont les bonnes versions, avec les bons commentaires, sachant que les commentaires, contrairement à ce que pensent les protestants, ne viennent pas en quelque sorte amoindrir l'Écriture, au contraire, ils viennent l'expliciter. Combien de protestants diront à tout propos à un catholique « nous obéissons à la Bible ». Ah oui, c'est pour ça que les femmes sont voilées chez vous. Alors, chez certains oui, chez d'autres non. Et les mêmes vous diront que ce passage de saint Paul dans l'Écriture est tout à fait normatif, et les autres vous diront qu'il est tout à fait dépassé. En cela, évidemment, ils rejoignent les néo-catholiques qui, pour eux aussi, la seule chose qui importe, c'est d'être dans le flux et dans le temps, le mouvement. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, nous devons lire l'Écriture dans l'Église, nous devons lire l'Écriture avec l'Esprit qui l'a inspiré, nous devons nous soumettre à l'enseignement des Pères, ça c'est un préalable. Maintenant, admettons que nous fassions tout cela, et ce n'est vraiment pas difficile avec l'aide de Dieu. Maintenant, il se trouve que la lecture de la parole de Dieu produit immédiatement deux fruits, que sont la patience et la consolation. Il y a donc deux fruits qui sont les moyens de l'espérance. Nous ne pouvons pas posséder l'espérance telle que le christianisme veut que nous la possédions, ou nous la fait posséder, si nous n'avons pas la patience et la consolation, et nous ne pouvons avoir la patience et la consolation que dans la mesure où nous fréquentons l'Écriture. La patience, tout d'abord. La patience, c'est un mot qui vient d'une racine latine qui signifie souffrir. La patience, c'est l'endurance. La patience, c'est l'endurance par la maîtrise de soi, de ses passions, avec l'aide de Dieu, de sa volonté propre. De quoi s'agit-il techniquement parlant, pratiquement parlant? Il s'agit, nous dit un auteur, de la patience, c'est-à-dire le fait d'attendre et de subir et de souffrir tout avec endurance. La patience à attendre Dieu, à attendre sa grâce et à attendre les moments de Dieu. « Levez-vous, après vous êtes assis », dit le psaume. Il ne faut pas aller plus vite que Dieu, il ne faut pas prendre des décisions quand Dieu nous empêche de les prendre, et il ne faut pas les différer quand Dieu nous dit de les prendre. Et quand je dis « Dieu nous dit », je ne parle pas de révélation privée ou de lumière spéciale, etc. Je parle tout simplement du processus normal et habituel, ordinaire, de compréhension de la volonté de Dieu dans le sein de la religion chrétienne. Nous n'approfondirons pas ici. Donc, patience à attendre Dieu, sa grâce et ses moments. Patience à supporter le prochain, ses faiblesses et ses défauts. Patience à souffrir ce qui arrive au-dedans et au-dehors de nous. Les sécheresses, les baisses de toutes sortes de choses, ou les persécutions, les sujets d'irritation, etc. Qu'est-ce que la patience? La patience, donc, c'est la fidélité à ne pas tant chercher les consolations terrestres et humaines que celles de la parole de Dieu et des promesses divines. Nous ne pouvons apprendre la patience que par l'exercice, si l'on peut dire pratique, de la lecture de l'Écriture sainte. Il y a des passages qui sont plus difficiles, plus lassant que d'autres, c'est vrai, c'est vrai pour la majorité des lecteurs, mais il se trouve que c'est peut-être justement par ces passages, quand on ne les saute pas, quand on les adore en les lisant, quand on dit « Mon Dieu, je ne comprends pas vraiment ce qui est dit, mais je vous adore, j'adore votre infinie patience, votre infinie sagesse », c'est alors qu'il se trouve que la patience se forme en nous. Lorsqu'on balaye d'un coup d'œil l'Écriture sainte et en disant « Oui, ce bouquin, il y a plein de choses étonnantes, on se demande ce que ça fait dedans, et ça, on est impatient, on n'apprendra jamais la patience ». Et si on croit apprendre la patience en lisant Aristote et en suivant ses conseils, eh bien on deviendra un païen patient, et le païen patient, comme le païen impatient, va en enfer. La réalité, mes très chers frères, c'est que la patience dans la lecture de l'Écriture, la patience, et ce n'est pas un jeu de mots, une boutade, la patience à lire l'Écriture dans l'ordre des livres où ils sont distribués, la patience à lire des choses qui nous intéressent et des choses qui nous intéressent moins, la patience jointe à l'adoration de l'Écriture sainte, de Dieu dans l'Écriture sainte, produit justement cette vertu de patience typique des chrétiens. Ça peut paraître étonnant, mais tout paraît toujours étonnant quand on montre comment on l'acquiert. Vous voyez, on préfère être étonné, on préfère être surpris, on préfère être toujours dans une sorte de flou poétique qui nous fait admirer les choses de loin, plutôt que de voir comment se les approprier. On aime bien voir, lire les vies des saints, voir des saints qui sont en lévitation, des saints qui aiment Dieu, des saints qui rayonnent tellement qu'on croit qu'il y a un incendie, ça fait rire, etc. Maintenant, comment aimer Dieu pratiquement? Ça nous intéresse moins parce que du coup, c'est à notre portée, et puis c'est très fastidieux. Voyez-vous, mes très chers frères, la patience s'apprend techniquement par la lecture de l'Écriture. Alors vous allez dire, mais ça s'apprend aussi autrement. Bien sûr que ça s'apprend autrement. Mais qui nous dit que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons? Qui nous apprend à pratiquer, à savoir cela et à le pratiquer? La parole de Dieu. C'est l'Église qui, par la parole de Dieu, nourrit notre âme, nourrit notre intelligence, nous façonne pour faire de nous, de païens que nous étions, des chrétiens. La patience est donc le contraire du fait de subir comme un animal. On subit, on ne peut pas faire autrement, on subit, mais le problème, c'est que si on pouvait faire autrement, on le ferait. Et alors, on ferait des choses mauvaises. La patience consiste à être patient comme David, qui, après avoir été oint dans sa jeunesse comme roi par le prophète Samuel, a attendu, a souffert des persécutions, a été un guerrier de l'armée du roi, Saül. Il a souffert les persécutions de ce roi, il a souffert toutes ces injustices, il a souffert l'exil chez les Philistins, il a souffert toutes sortes de choses, il a souffert les injures de la part des gens qui le traitaient de rebelle à son roi, d'esclave rebelle, comme Nabal du mont Carmel, etc. Il a souffert, il a eu la patience, et un jour, il a été couronné roi, et il est devenu le roi d'Israël. Voyez-vous ? Alors vous allez dire, c'est une histoire parmi d'autres. C'est l'histoire sainte. Je me demande quelle autre histoire vous donnera des exemples de patience, sinon l'histoire sainte. Il y en a bien dans toutes sortes de livres, etc., bien entendu, mais elles n'ont pas la puissance de l'histoire sainte. Pourquoi ? Eh bien parce que ce n'est pas Dieu qui a inspiré ces histoires, c'est les hommes qui les ont rédigées, et c'est peut-être des belles histoires, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Voyez-vous, mes très chers frères, la patience, et nous l'acquérons par cette discipline très imperceptible, très infime, qui a l'air de rien, et pourtant qui est une véritable discipline qui transforme notre âme peu à peu en nous apprenant à aimer Dieu comme ceux qui l'ont aimé l'ont aimé. Alors vous allez dire, pourquoi ne pas lire le martyrologe ou les vies des saints, etc. Lisez des vies des saints après avoir lu l'Écriture, si vous avez encore du temps. Parce que les vies des saints, surtout celles qui ont été écrites au 19e et au 20e siècle, sont souvent des contresens et des choses qui ne sont pas édifiantes, ou alors qui portent à la condescendance vis-à-vis des saints, et comme font les néo-catholiques, Saint Laurent sur son grill, ça fait bien rire, parce qu'il y a eu des bons mots, l'humour des saints, rire avec les saints, etc. Ne lisez pas les vies des saints, lisez l'Écriture sainte, c'est beaucoup mieux. Voyez-vous ? Ou alors, si l'on peut dire, lisez-les dans les très anciens livres, dans de très anciens livres de très bons auteurs, Et cela vous édifiera peut-être, mais après avoir lu l'Écriture sainte. Et pas avant, et pas contre, et pas indépendamment. La patience est une vertu qui nous fait préférer souffrir en obéissant à Dieu plutôt que de jouir en lui désobéissant. Maintenant, la consolation, le deuxième fruit de la lecture de l'Écriture sainte, la lecture catholique de l'Écriture sainte, c'est la consolation. Parce que saint Paul dit « afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures ». Qu'est-ce que la consolation? Il y aurait bien des choses à dire parce que c'est une notion très complexe, même si elle est très simple à comprendre. C'est une notion de très grande importance. La consolation peut être dite, peut être définie ainsi, c'est la possession par anticipation du ciel par le renoncement à la terre. C'est une expérience incommunicable en réalité. On peut dire qu'on a été consolé par Dieu, on peut dire qu'on est consolé par Dieu, encore que ceux qui le sont vraiment ne le disent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de perdre cette consolation par l'orgueil que l'on pourrait en tirer, par la jouissance qui pourrait en faire l'objet, dont elle pourrait faire l'objet, indépendamment du Dieu de la consolation. La consolation, c'est donc la possession par anticipation du ciel, par le renoncement à la terre. C'est un remplacement efficace du bien temporel sacrifié. Quand je dis bien temporel sacrifié, ça ne veut pas dire forcément perdu ou auquel on a renoncé comme les religieux renoncent à bien des choses qui sont licites aux laïcs, etc. Je dis sacrifié, c'est-à-dire rendu sacré par la charité. Le remplacement donc efficace du bien temporel sacrifié par la possession ici-bas de la mystérieuse amitié avec Dieu, qui est, elle aussi, une expérience incommunicable. On peut rayonner de son amitié avec Dieu, on ne peut pas tellement en parler, on ne peut pas tellement la décrire, sinon en renvoyant à l'Écriture, qui nous en parle, qui nous enseigne sur le sujet, et surtout qui nous donne le moyen de le réaliser, c'est-à-dire de le rendre réel pour nous. Comment cette consolation s'obtient-elle ? Nous l'avons dit, par la fréquentation de l'Écriture sainte, qui est la lettre et le testament, pour parler comme saint Grégoire Pape, la lettre et le testament que Dieu nous a donné, afin que nous le connaissions et que nous méditions sans cesse ses hauts faits. Si saint Grégoire Pape dit, en s'adressant aux chrétiens, à tous les chrétiens, aux laïcs, et aux autres évidemment, il dit, si l'empereur vous envoyait une lettre, et à un moment quelconque de la journée, le messager venait et vous dirait une lettre de l'empereur pour vous, que vous soyez en train de manger, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez en train de préparer n'importe quoi, vous arrêtez tout pour prendre connaissance de ce que l'empereur veut vous dire. A fortiori, la lettre de notre Père Céleste. Il ne s'agit pas de rien faire et de lire la Bible toute la journée, bien entendu, c'est comme pour la prière, etc. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour méditer l'Écriture sainte, il y a un temps pour la mettre en pratique, bien entendu. Maintenant, il se trouve, mes très chers frères, que c'est une lettre envoyée par notre Père, par le biais de tous les auteurs qui l'ont écrit, inspirée par le Saint-Esprit, de telle sorte que nous puissions connaître notre Père Céleste et le Messie, son Fils, que nous, et le Saint-Esprit bien sûr, que nous puissions l'aimer, car on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Je me demande toujours comment est-ce que des gens des catholiques qui ne lisent pas la Bible, qui ne lisent pas l'Écriture sainte, qui ne la méditent pas dans l'Église, peuvent aimer Dieu. Ils aiment le Dieu des philosophes, et pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu quand on ne connaît rien de ce qu'il a fait. Et quand on s'imagine que tout que ce qui est dit dans l'Écriture sont des abominations humaines et des interprétations toutes humaines de Dieu, et bien on n'a rien compris, évidemment, puisque c'est, au contraire, c'est la parole de Dieu. Donc voyez-vous, et la méditation de ces hauts faits, depuis le romantisme, depuis Walter Scott et Don Guéranger, il se trouve que le Moyen-Âge à la côte chez les catholiques. C'est le Moyen-Âge, les chevaliers, les trucs, les hauts faits, les tournois, les joutes, les croisades, etc. Bon, je veux bien, tout ceci il fait partie de notre histoire et il y a un aspect admirable. C'est vrai. Maintenant, il se trouve que tous ces gens-là se gargarisent de choses qui sont en quelque sorte écrites, réécrites, réinterprétées presque à l'infini, comme ça, et ils s'imaginent qu'ils doivent absolument lire la chanson de Roland, qui est une chose très longue et très fastidieuse en réalité, pour s'enflammer de la geste des anciens chevaliers, alors que la geste de Dieu, les hauts faits de Dieu, sont là, accessibles dans l'Écriture sainte pour nous, commentés par les pères, c'est-à-dire rendus vraiment plus que compréhensibles, et on les méprise. Pourquoi ? Parce qu'on préfère la geste des gens que j'ai choisi d'admirer, que on a choisi d'admirer, plutôt que de se soumettre à la geste grandiose de Dieu contre ses ennemis, c'est-à-dire contre tout ce que nous avons tendance à aimer naturellement. Si vous voulez lire une chanson de geste d'un héros puissant et invincible, lisez l'Écriture sainte, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de Dieu et de tous ses héros. C'est l'histoire de Dieu et de tous ses amis. C'est l'histoire de Dieu et de tous ceux qui sont un dans le Christ et dont nous sommes aussi les enfants, les héritiers et aussi, très humblement, les frères en notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, voyez-vous, mes très chers frères, l'Écriture sainte est le miroir. L'Écriture sainte est un miroir, ou bien le miroir de notre charité, et quand bien même nous ne comprendrions pas ce qui peut arriver, nous aimons Dieu qui a inspiré chaque trait de l'être, ou bien, donc le miroir de notre charité, ou bien le miroir de la hideur de notre orgueil. Quand on voit chez beaucoup de gens qui se disent catholiques, ce mépris incroyable, parfois il est subtil, mais parfois il est grossier, souvent il est grossier, ce mépris incroyable de certains envers le seul et unique moyen de donner un contenu à l'espérance, un contenu orthodoxe à notre espérance, voyez-vous, on peut dire avec l'Écriture qu'ils tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée. Et s'ils y tombaient tout seuls, ce serait tant pis pour eux, mais ils sont des aveugles, autre parole de l'Écriture sainte, qui guident d'autres aveugles, et ils tomberont tous dans la fosse qu'ils ont creusée par leur mépris. Que Dieu nous garde, que Dieu les châtie, que Dieu les convertisse, mais que Dieu nous garde de jamais, mes très chers frères, accorder la moindre oreille et la moindre attention à ces sataniques. En réalité, mes très chers frères, ces gens-là se réfugient dans des illusions, même sérieuses, comme on dit. Ils injurient l'Écriture sainte et ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils n'ont pas, aujourd'hui, l'amour de la vérité, que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Alors, comment l'Écriture donne-t-elle patience et consolation ? Par sa vertu intrinsèque. L'Écriture, c'est comme de l'or. L'or existe en pépite, en pierre, disons, en amas de métal qu'on trouve dans les mines, dans les fleuves, et il se trouve aussi sous des formes diverses, spécialement des bijoux, ou des pièces de monnaie. Le protestant a raison lorsqu'il dit « l'Écriture sainte est d'une très grande importance ». C'est un homme qui a une pépite d'or dans la main, mais il ne sait pas quoi en faire. Donc il dit « c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or ». Il a raison, mais qu'est-ce que vous en... Le catholique a une vaisselle d'or, si j'ose dire. C'est-à-dire que cette même pépite a été transformée par l'Église en une vaisselle d'or, et il mange des mets fortifiants avec cette vaisselle d'or, pour ne pas dire qu'il se nourrit de cet or, parce que ça ne se fait pas dans le physique. Mais voyez-vous, mes très chers frères. Donc, bien sûr que l'Écriture sainte a une vertu intrinsèque. Bien sûr que l'Écriture sainte a une puissance en elle-même, et c'est pour cela que bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, elle sert d'amorce à l'intégration dans l'Église, à la conversion, bien entendu. Ce sont des choses qui... Bien sûr, l'Écriture sainte n'est pas un vulgaire bouquin canonisé par l'Église. L'Église n'aurait pas pu prendre Les Misérables de Victor Hugo ou Moby Dick ou autre chose comme ça en disant, voilà, c'est inspiré parce que je lui donne mon autorité et tout d'un coup, ça deviendrait un livre saint. L'Église a authentifié les livres saints parce que ce sont des livres saints et non pas parce qu'elle a fait de bouquins quelconques des livres saints. Attention, attention, ayons toujours la doctrine de nos pères et pas la doctrine des néo-catholiques qui disent n'importe quoi. Hein, néo-catholiques, même tradis. Attention, elle a une vertu intrinsèque qui est communiquée à ceux qui s'en nourrissent comme ils le font, mutatis mutandis, évidemment, c'est-à-dire toute proportion gardée, comme ils le font du corps du Christ. Encore une fois, nous avons dit que quand on lit l'Écriture sainte en dehors de l'Église, on n'en retire aucun fruit pour la vie éternelle. Quand on communie en dehors de l'Église, on n'en retire aucun fruit pour la vie éternelle. Quand on communie, évidemment, dans les bonnes dispositions dans l'Église, on en retire un fruit pour la vie éternelle. Quand on lit l'Écriture sainte dans les bonnes dispositions en Église, on en retire un fruit pour la vie éternelle. Il est impossible d'être chrétien sans connaître l'Écriture, d'où le soin extrême qu'on, si vous ouvrez les yeux et que vous, en parcourant les fameuses cathédrales que nous aimons tant, le soin extrême pour nos pères de représenter jusqu'au moindre, la moindre histoire, la moindre anecdote de l'Écriture sainte dans la pierre en particulier, dans tous ces immenses et innombrables retables et autres choses que l'on voit partout sur les portes, sur les murs, sur les vitraux, etc. On est même étonné de voir à quel point toute l'Écriture sainte a été représentée, en tout cas toute l'histoire sainte, a été, tout ce qui était représentable, a été représenté par des images pour que ceux qui ne savaient pas lire à l'époque, parce que beaucoup de gens ne savaient pas lire, eh bien, puissent quand même se souvenir de ce dont ils avaient été avertis au catéchisme, enseignés au catéchisme. Voyez, et aujourd'hui, on voit tout ça, et puis on s'imagine, on dit c'est très beau, mais on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, et à un certain moment, on reconnaît une annonciation, on reconnaît une nativité, et on dit « Ah, vous avez vu, c'est l'annonciation, c'est la nativité, oui, et tout le reste. » Vous connaissez l'histoire sainte, vous connaissez la geste de David, la geste d'Abraham, la geste d'Isaac, de Jacob. Est-ce que vous connaissez ? Oh, ben ça, c'est pas important. C'est pas important, c'est pour ça que c'est représenté partout. Voyez-vous, mes très chers frères, il est impossible d'être chrétien sans connaître l'histoire sainte, et je dirais même que on pourrait fort bien être chrétien en ne connaissant que l'histoire sainte, parce que c'est tout ce qui importe. On oppose souvent, aujourd'hui, le catéchisme à la Bible, le catéchisme à l'histoire sainte. Alors évidemment, ce sont deux choses différentes. Et donc on dit, relisez plutôt le catéchisme. Alors, je ne dis pas que c'est faux. Et je dis qu'effectivement, il faut commencer par le commencement. Mais en réalité, quand nous voyons les catéchismes, le catéchisme que nous utilisons dans la communauté, les catéchismes de nos pères qui ont été rédigés à la bonne époque, eh bien, le catéchisme commence toujours par l'histoire sainte. Il commence toujours par l'explication. Qu'est-ce que vous allez enseigner que le Christ est le Rédempteur si vous faites fi de l'histoire sainte ? Le Rédempteur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais si vous ignorez la loi de Moïse, comment connaître la signification de cette parole fondamentale de Saint Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment même comprendre la parole du prêtre qui, avant de communier le peuple, montre l'hostie en disant, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Mais qu'est-ce que c'est l'agneau de Dieu? Pourquoi pas autre chose de Dieu? L'agneau de Dieu parce que la loi de Moïse, parce que le livre de l'Exode, parce que la première Pâque. Parce que l'ange destructeur, exterminateur, dont l'épée a été détournée par le sang de l'agneau pascal. Voyez-vous, mes très chers frères, il ne s'agit pas d'être expert dans l'écriture, il ne s'agit pas de regarder des tutos de l'écriture sur YouTube, les 10 choses importantes dans la Genèse, choses qui sont absolument... C'est donner des perles aux pourceaux, en réalité. Il faut la lire dans le cadre de l'Église, il faut la lire sous le contrôle des prêtres de l'Église, des vrais prêtres, disons. Il faut lire dans les bonnes versions, mes très chers frères, mais une fois qu'on a fait ça, alors véritablement, on devient chrétien et on se rend compte que jusque-là, on était au mieux un chrétien superficiel, très superficiel, capable d'être emporté à tout vent de doctrine, autre expression de l'Écriture sainte, et tandis que maintenant, on est enfin chrétien, voyez-vous. N'opposons pas l'Écriture sainte au catéchisme. Le catéchisme commence par l'exposé de l'Écriture sainte, de l'histoire sainte, sans laquelle toute la religion, tout l'appareil sacramentel de la religion est absolument incompréhensible. Incompréhensible. L'Écriture sainte, dit saint Thomas, est la source impérissable du dogme, c'est-à-dire de la tradition orale. Voilà pourquoi l'Écriture sainte nous donne, la patience et la consolation que donne l'Écriture sainte, nous fait posséder l'espérance. Véritablement, nous possédons l'espérance de la vie éternelle, nous possédons l'espérance de la venue glorieuse de notre Seigneur, nous possédons l'espérance dans toutes ces applications, parce que nous sommes solidement enracinés dans cette pierre inébranlable qu'est la parole de Dieu. Terminons, mes très chers frères, par quelques très brèves considérations. Dans le graduel, il est dit ceci, c'est tiré du psaume 49. « De Sion, miroir de sa beauté, Dieu viendra se manifester. » L'Écriture est le miroir de la majesté divine. Nous avons dit qu'elle était le miroir ou bien de notre charité ou bien de la hideur de notre orgueil. L'Écriture est encore le miroir de la majesté divine. Nous en avons dit un mot. Elle ne peut se percevoir qu'en Sion, c'est-à-dire que dans l'Église. Sion, c'est Jérusalem. Remarquez, les protestants qui sont tout le temps, soi-disant, en train de fréquenter l'Écriture sainte, développent vis-à-vis d'elle une familiarité indigne et ils glorifient la majesté divine, mais traitent Dieu comme si c'était un ange gardien, en lui demandant toutes sortes de choses, en le traitant familièrement. Alors, il y a une sainte familiarité des enfants de Dieu avec leur père, ça c'est certain, mais pas cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en quelque sorte la pépite, mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sauvages dans la forêt, en réalité, si j'ose dire. Nous avons l'or et nous sommes assis à la table de l'empereur. Voyez-vous, mes très chers, la différence ? Bien sûr ! Ce sont des sauvages avec une pépite dans la main. Mais l'or ne prend tout son sens intrinsèque, il ne prend que dans l'entourage de l'empereur, du roi, du grand qui représente Dieu sur terre. Voyez-vous ? De Sion, miroir de sa beauté. La beauté est le miroir, l'Écriture sainte est le miroir de la majesté divine. Il nous faut admirer notre Dieu, il nous faut apprendre à glorifier notre Dieu, pas simplement dans les psaumes, mais aussi dans tous les autres, grâce aux psaumes, mais aussi à tous les autres textes de l'Écriture sainte. Le chrétien qui ne nourrit pas son âme, son intelligence avec l'Écriture sainte, non seulement se prive du trésor des enfants de Dieu, mais encore se fait la proie du démon en fuyant les verts pâturages du bon pasteur. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, mes frères, afin que vous croissiez dans l'espérance et dans la force de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.